Chapitre 120. Le mercredi après-midi, Booth Hendrickson a tous les éléments en main, sans mesurer pour autant l'ampleur du désastre qui s'annonce. Après avoir rallié Louisville depuis Washington à bord d'un jet du FBI, il monte dans un hélicoptère dont le pilote se pose à 14h20 à l'extérieur de Haut-Fourneau-le-Lac. Il est accueilli par Stacia Odell, la responsable commerciale du Grand Hôtel, qui le fait monter dans sa Mercedes S600. Plus tôt dans la journée, Hendrickson a vérifié par téléphone que l'implant cérébral de la jeune femme fonctionne convenablement en l'invitant à jouer au crime dans la tête. Il l'a programmé pour croire qu'il se nomme John Congreve et occupe les fonctions de PDG de Terra Firma, l'entreprise propriétaire du Grand Hôtel. Elle est censée l'accompagner partout sans se poser de questions. Il lui demande dès son arrivée de le conduire au pensionnat.
Quelle tristesse, tous ces enfants inadaptés, remarque Stacia en traversant le bourg.
Hendrickson est curieux de savoir ce qu'elle croit comprendre de la situation.
De quel mal souffre-t-il exactement ? Lui demande-t-il.
Ils ont des troubles de la personnalité. On en voit malheureusement de plus en plus.
C'est vrai. À se demander si ce n'est pas à cause de tous ces jeux vidéo violents. Ou alors la pornographie sur le net. Les messages pour le moins troubles véhiculés par le cinéma actuel, à moins que ce ne soit l'école.
Vous avez raison. Mais je crois surtout que c'est le manque d'attention.
Le manque d'attention.
Les parents ne font plus attention à leurs enfants. Les gens ne font plus attention à leurs voisins. Autrefois, c'était un pour tous et tous pour un, si vous voyez ce que je veux dire.
Je vois très bien.
Les gens sont tellement centrés sur eux-mêmes. Les conséquences sur les enfants sont forcément terribles.
De votre point de vue, les habitants de Haut-Fourneau-le-Lac font davantage attention les uns aux autres ?
Le visage de Stacia s'éclaire.
Absolument. Nous formons une communauté très unie. Il suffit de regarder autour de vous. Je recevais hier un client d'Atlanta, M. Moises. Il me disait que notre petite ville lui faisait penser à un œuf de Fabergé. Elle s'exprime avec une candeur qui toucherait quiconque ne sait pas qu'elle a reçu un implant cérébral.
Elle se gare quelques minutes plus tard devant le pensionnat et Hendrickson lui demande de l'attendre dans la voiture, ce qu'elle est prête à faire jusqu'à la nuit des temps s'il le faut, quitte à mourir de soif.
Une certaine Norine ouvre la porte.
Hendrickson lui demande de jouer au crime dans la tête et de réunir ses collègues grâce à la chambre des murmures.
Tous les employés du faux pensionnat installés dans la salle à manger, il essaie de comprendre comment ils ont pu faillir à leur mission en laissant s'échapper les enfants.
Ceux-ci ont laissé leurs chaussures équipées de puces dans leur chambre et personne ne sait où ils sont allés. Ils ont forcément quitté Haut-Fourneau-le-Lac, tous les habitants les ont cherchés en vain. L'aîné du groupe, un garçon de 14 ans, aurait à la rigueur pu prendre le volant, mais aucun véhicule ne manque à l'appel. Quant au disque dur du système de surveillance, il a disparu. Hendrickson se trouve face au mur de ses 8 visages impassibles. Une heure durant, il use de tous les moyens que lui offre le mécanisme de contrôle pour fouiller leur mémoire à la recherche des informations dont il a besoin, sans résultat. Ils souffrent tous d'une amnésie qui a débuté à l'heure du dîner et pris fin lorsqu'ils se sont mis au lit. On pourrait croire que le logiciel s'est enrayé au même moment chez tous les employés du pensionnat. La torture ne lui serait d'aucune utilité puisque ces gens sont incapables de mentir. Par habitude, il essaye pourtant de les intimider et de les brutaliser. Il frappe deux femmes à plusieurs reprises, la première saigne du nez, la seconde à la lèvre tuméfiée. Il s'en veut aussitôt, non par grandeur d'âme, mais parce qu'il a conscience de perdre son temps. Hendrickson s'apprête à lever la séance lorsque George Woolsey, une brute au visage rubicon, déclare brusquement.
Je n'ai pas l'intention de vous maltraiter, d'accord ?
Hendrickson s'approche de lui en fronçant les sourcils.
Me maltraiter ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Vous ne pouvez pas me maltraiter puisque vous m'appartenez.
George est livide.
On dirait un cheval enfermé dans des écuries en flammes. « N'ayez pas peur, Georges.
Mais enfin, espèce de crétin, c'est vous, Georges !»
Georges poursuit sur un ton angoissé.
« Que m'est-il arrivé ?
Vous n'en avez pas le souvenir, Georges ?
Je ne sais pas. Tout a changé. Allons, Georges, revenez vous asseoir avec les autres. »
Hendrickson comprend soudain que Georges laisse échapper ces phrases du trou noir de sa mémoire.
« Vous répétez une conversation, c'est ça ?»
Woolsey ne répond pas.
« Répondez-moi, qui vous a promis de ne pas vous maltraiter ?»
Woolsey a les yeux révulsés. Il halète péniblement.
« Allez, bon sang ! Qui vous a promis hier soir de ne pas vous maltraiter ?»«
Elle, » murmure Woolsey en fixant le vide.
« Qui ça, elle ?»
« Je ne sais pas. »«
Décrivez-la-moi. »«
Elle était... »«
Elle était quoi, Georges ? Parlez !»«
Elle était gentille. »«
Quoi d'autre ?»
Les lèvres de Woolsey remuent, mais aucune réponse ne lui vient.
« Parlez-moi d'elle, Georges. Tout peut m'être utile, bon sang !»«
Je ne veux pas. »« Je ne peux pas. »« Je ne sais pas. »
Une femme est venue la veille, qui est repartie avec les enfants. Une femme qui connaît le fonctionnement du mécanisme de contrôle et qui peut les obliger à tout oublier.
Il existe des factions au sein des Arcadiens, comme dans toute organisation, mais Hendrickson n'arrive pas à croire qu'il puisse y avoir un traître parmi eux. Il bombarde Woolsey de questions, mais rien n'y fait.
Il finit par renvoyer les gardiens dans leur chambre, sans prononcer le Auf Wiedersehen rituel, et tous quittent la pièce comme des morts vivants. Hendrickson passe un appel à un spécialiste dans un laboratoire secret en Virginie et demande à son interlocuteur de venir autopsier le cerveau des 8 gardiens, comme on pourrait procéder avec un disque dur endommagé. Stacia O'Dell l'accueille avec un large sourire lorsqu'il regagne la voiture.
Tout va comme vous voulez ?
Il ne répond pas. Perdu dans ses pensées. Au fourneau le lac est un lieu de première importance pour les Arcadiens. Il leur permet d'y inviter des gens importants pour les programmer ou bien les pousser au suicide. Et voilà que toute cette mécanique bien huilée se trouve mise en danger par l'évasion de 8 gamins. Il sent qu'il frôle la vérité et qu'un élément important lui échappe.
En route, Madame O'Dell.
Où dois-je vous conduire ?
« En ville, » répond-il après une hésitation.
Et c'est un quart d'heure plus tard que Stacia O'Dell fait à nouveau allusion à Martin Moises, ce charmant afro-américain d'Atlanta qui a comparé au fourneau le lac à un œuf de Fabergé.